Restez sur place. Et c'est la fin de ce flash. Excellente matinée à tous.
Des falaises d'opale aux collines de Flandre, sous le sable et les monts se terre une légende. Oubliée des mémoires, elle ne survit désormais que dans le cœur d'osier.
À tous, vous venez d'entendre le cœur du géant, une introduction pour présenter en fait le livre Les larmes des géants, écrit par Christophe van Coostenoble.
Voilà, et donc le sujet de cette émission aujourd'hui est consacré donc à la Flandre et à ses géants. Et c'est vrai que cette terre de Flandre, eh bien, a une concentration de géants assez impressionnante. Certes, la Flandre n'a pas le monopole, bien sûr, des géants. On en trouve aussi en Autriche, en Espagne en particulier, et puis dans quelques autres pays, bien sûr. Mais quand on regarde une carte d'implantation des géants, eh bien, il y a une nette concentration, tout particulièrement d'ailleurs, en Flandre française, de Douai à Dunkerque. Alors l'engouement d'ailleurs pour nos géants ne faiblit pas, loin de là, dans les années 70-80 on en comptait à peu près 200, aujourd'hui on estime qu'ils sont de l'ordre d'à peu près de 450, donc c'est dire que cette tradition est plus vivante que jamais. Et donc nous allons essayer au cours de cette émission de vous faire découvrir ou redécouvrir un certain nombre de géants, mais aussi comment cette culture, bien sûr si typique de notre région, a vécu pendant tant de siècles. Et d'ailleurs, c'est une telle tradition que, eh bien, ces géants, certains géants ont fait partie de, eh bien, d'une reconnaissance de l'UNESCO le 25 novembre 2005, et donc, eh bien, comme patrimoine culturel immatériel.
En effet, l'UNESCO a reconnu 9 fêtes emblématiques de géants comme chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immédiat de l'humanité. Le carnaval de Cassel, les fêtes de Gaillan à Douai, les fêtes de la Tarasque à Tarascon, enfin, l'Homegang de Malines, la Ducasse de Mons. On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme en faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.
Voilà, donc c'est quand même très important que cette tradition des géants, ce n'est pas que du folklore de quartier ou de petits villages. Non, c'est une véritable culture qui est bien dans une défense d'une identité régionale. Alors depuis quand ces géants existent-ils? Eh bien, certainement depuis bien avant le Moyen-Âge, et elles faisaient partie de contes, de légendes, d'histoires que les générations se transmettaient les unes après les autres. Ces géants, c'était comme des dieux, comme les dieux grecs ou romains. Ils évoquaient des batailles sans pitié entre des géants. C'était vraiment comme des demi-dieux. Ils ont toujours Ils n'ont pas toujours inspiré, comme aujourd'hui, une sorte de bienveillance. Au contraire, quand on écoute la chanson d'Heureuse en particulier, eh bien, il faut bien écouter les paroles et s'apercevoir que, eh bien, les populations en avaient un petit peu peur quand même.
Lutte, cloque, lutte, heureuse comme une.
Alsterotte, cloque, lutte, cloque, lutte, heureuse comme une.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme heureuse comme.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme heureuse comme.
Nourrice net un botteram d'heureuse esram.
Nourrice net un botteram d'heureuse esram.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme heureuse comme.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme heureuse comme.
Montreuse tête, beste bire, beste bire d'heureuse vésir.
Montreuse tête, beste bire, beste bire d'heureuse vésir.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme heureuse comme.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme heureuse comme.
Hef mokassam rat de reuze westen. Hef
mokassam rat de reuze westen.
Kerwisam reuze reuze, kerwisam reuze kam.
Kerwisam reuze reuze, kerwisam reuze kam.
Als de rat de klokke lid, de klokke lid de reuze kam.
Als de
rat
de klokke lid, de klokke lid de reuze kam.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme heureuse comme.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme heureuse comme.
Montre ce n'est un botteram de reuse esram.
Montre ce n'est un botteram de reuse esram.
Qu'héroïsme heureuse, heureuse, qu'héroïsme.
Vous venez d'entendre la chanson d'Heureuse, interprétée par... le groupe Être The Car avec Marie Kenbart. Donc chant traditionnel, c'est une chanson très populaire dans toute la Flandre qui a eu une vogue particulière à Dunkerque à cause de la procession du géant. Et quelques écrivains d'ailleurs pensent que cette chanson et cette cérémonie se rattachent à des souvenirs scandinaves. Voici les paroles. Quand la grosse cloche sonne, l'heureuse sort. Retourne-toi, Reuse. Reuse, retourne-toi, gentille Reuse. Ça, c'est le refrain. Et donc, dans les couplets, mère, mets le pot au feu. L'heureuse vient ici. Retourne-toi. Mère, coupe une tartine. L'heureuse est en colère. Retourne-toi. Mère, tire la meilleure bière. L'heureuse est ici. Retourne-toi. Mère, bouge vite le tonneau. L'heureuse est ivre. Retourne-toi. Mère, donne du pain et du fromage. L'heureuse est mort. Retourne-toi.
Et donc, c'est bien la preuve que le Reuze, au départ, n'était pas toujours quelqu'un de bienveillant. Au contraire, il était craint par les populations et il fallait bien le nourrir, bien le soigner pour éviter, bien sûr, ses grandes colères. Mais néanmoins, on a une autre version, bien sûr, de Gion, qui lui devient le grand protecteur des populations. Et ici, nous allons d'ailleurs écouter un conte, d'ailleurs, de Monsieur Cousset, où on parle justement de ce géant protecteur des populations.
La légende du Reuze. Reuze est le terme flamand pour géant, l'équivalent de Gaillan en Picard. Au pluriel, on parle de Reuzen. C'est durant le règne de Dagobert, c'est-à-dire au cours du 7e siècle, que commencent les raids des Vikings sur nos côtes. Il n'est pas rare alors de les voir arriver sur leurs drakkars pour piller quelque abbaye, quelque monastère, puis s'enfuir avec leur butin avant de revenir la saison suivante. C'est le lot des villes du bord de la mer. Un jour, un guerrier viking, plus aventureux et plus solitaire que les autres, arrive en reconnaissance du côté de Dunkerque. Il fait échouer sa barque sur le sable et part à la découverte du pays. Bien vite, il rencontre une dizaine de pêcheurs occupés à ramander leurs filets. Ceux-ci, complètement affolés à la vue d'un homme dont la carrure remplit tout l'horizon, laissent tomber leur ouvrage et s'enfuient. Le guerrier veut les poursuivre, mais il trébuche sur un terrier de lapin, tombe et s'empale sur son glaive. Lui, naguère belliqueux, il gît maintenant sur le sol, perdant son sang en abondance. Les pêcheurs, qui viennent d'assister à la scène, n'ont qu'une envie, c'est d'achever ce que la Providence vient de commencer. Mais Saint Éloi, le patron de la ville, leur apparaît et, contre toute attente, leur demande de panser ses blessures avec des morceaux de soie découpés dans sa chasuble. Le guerrier, à qui l'on a servi de bonnes rasades de genièvre pour calmer ses douleurs, est ensuite hissé sur un chariot tiré par 4 paires de bœufs et conduit dans la cité. Là, il reprend goût à la vie et se propose même de demander la fille la plus robuste du pays en mariage. En contrepartie, il propose d'aider les habitants à se défendre le jour où ils se feront à nouveau attaquer. Le marché est passé, et c'est pourquoi, à la moindre alerte, celui que depuis lors tout le monde appelle le Reuze monte au créneau. Et la légende raconte qu'il a tellement rendu de service que la cité en a fait son géant. Là, donc c'est un texte sur la légende du Reuze de Bernard Cousset.
Et donc ça montre bien aussi un mélange de paganisme et de religion chrétienne, puisqu'on parle de l'intervention de Saint Éloi dans cette légende, et aussi de ce géant qui vient de la mer du Nord. Et donc ces légendes, eh bien, ont construit bien sûr nos géants, que l'on a beaucoup de respect et d'admiration.
Alors vous venez d'entendre la Russische Polka, un morceau traditionnel de Flandre. C'est donc une musique qui est souvent interprétée lors de soirées folk, lors de balles. La chorégraphie d'ailleurs qui est interprétée sur cette musique s'appelle la Troïka de Duffel, province d'Anvers, datant de l'époque où ça manquait d'hommes parce que ils étaient partis à la guerre. C'était deux cavalières par homme. Voilà, vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et donc nous évoquons bien sûr la Flandre et ses géants. Alors cette trace de géants remonte bien sûr bien au-delà du Moyen-Âge. Par exemple, on trouve des textes, en particulier par exemple pour le cheval Bayard et les quatre fils Aymon, à Hatte, dès 1462. De même, les géants de Douai, de Dunkerque, de Cassel, on trouve des traces dans des textes déjà dès 1530. Et d'ailleurs, Douai, le géant, qui est une véritable institution, à tel point, c'est que par le passé, les fêtes de Gaillan à Douai avaient lieu le 16 juin. C'était aussi pour commémorer la victoire des Douaisiens sur les troupes françaises. Mais quand quelques années plus tard, la France a conquis Douai, naturellement, les autorités françaises ne voulaient pas maintenir cette date de 16 juin et l'a mis désormais la date du 6 juillet, qui était la date de la victoire des Français, sur les Douaisiens. Comme quoi, ce n'est pas innocent, ces géants. C'est aussi des références dans l'histoire, c'est des références simplement dans les traditions, dans les coutumes. Alors évidemment au début, ces géants avaient souvent des tenues de guerriers avec armée d'épées, de boucliers, voire d'une lance. Et ils sont là pour protéger les habitants de la cité. Il y a comme une sorte d'adoration religieuse envers ces géants. Et d'ailleurs, l'Église n'a pas toujours vu ça d'un très bon œil, car évidemment, il y avait une sorte de relent de paganisme derrière tout ça. Alors évidemment, ils ont bien essayé de créer des géants d'inspiration biblique, comme Goliath, mais vouloir interdire ces géants, c'était trop difficile, trop risqué, car les populations étaient très attachées à leurs géants. Et donc, si on interdisait naturellement ces géants, on risquait tout simplement des émeutes. Ces mesures étaient trop impopulaires. Aussi, l'Église a essayé tant que soit peu de s'accommoder de ces traditions et coller bien souvent des processions religieuses où se mêlaient les statues des saints et puis notre fameux géant. Par contre, à la Révolution française, en 1793, la Convention a purement et simplement interdit les géants, sous le prétexte naturellement que c'était des symboles de l'Ancien Régime, que c'était des croyances anciennes et qu'il fallait sortir du Moyen-Âge. Mais naturellement, ça n'a pas duré très longtemps parce que dès 1801, les géants sont bien sûr ressortis de leur cachette et ils ont repris bien sûr toute leur place dans les traditions de nos villes. Les géants, ce ne sont plus que des symboles de fête, ce sont de véritables identités régionales de villes. Les géants comme Douai, par exemple, les gens de Douai n'hésitent d'ailleurs pas à se désigner fils de Gaillan. Ils disent pas douaisien, je suis fils de Gaillan. C'est dire l'importance du géant, naturellement, dans les croyances populaires. C'est un besoin quasi sociologique, on peut dire. C'est un moment où les géants faisaient partie intégrante de la vie de chacun. Mais avec l'arrivée du modernisme, dans les années 60 en particulier, à un moment donné, ces fêtes traditionnelles perdaient petit à petit de leur engouement pour faire place aux nouveaux loisirs et donc les gens disaient ces géants font partie du passé, ça fait ringard, c'est bon pour les petits vieux, tout ça. Donc on se tourne vers le modernisme. Et puis on voit petit à petit des fêtes locales qui disparaissent, certains géants ne sortent plus de leur garage. On ne fait plus appel qu'au confort, au modernisme. Les fêtes de village, petit à petit, s'éteignent également. Et il ne reste plus que quelques villes où ça reste encore des traditions très vivantes, comme Douai, par exemple, justement, ou Cassel. Mais ailleurs, eh bien, nos géants, petit à petit, ont tendance tout simplement à disparaître du paysage de nos villes et de nos villages.
Loop je mee in het burgerleven, nee Bertje nee. Netjes in de maat gebleven,
nee Bert nee.
Laten wij het schip verbranden dat ons naar dit eiland droeg. Laten wij de storm bedanken die ons uit de richting sloeg. Kunnen wij van liefde leven, ja Bertje ja. Blijft de rest ons dan onteven,
ja Bert ja.
Soms vliegt een olifant vrolijk naar binnen en pikt onze laatste graan. Waar wij met z'n tweeën al weken op zitten, maar we wijven hem na als hij weer vliegen gaat. Proef de lauwe burgerdeugden, nee Bertje nee. Smaken jou hun kleine vreugden,
nee Bertje nee.
Laten wij de beker drinken die met vrijheid is gevuld, zodat wij in dromen zinken die tot waarheid zijn verguld. Kan de liefde dronken maken, ja Bertje ja. Kan zij zoet als rijnwijn smaken,
ja Bertje ja.
Soms vliegt een olifant vrolijk naar binnen en pikt onze laatste graantjes zwart zaad, waar wij met z'n tweeën al weken op zitten, maar we wuiven hem na als hij weer vliegen gaat. Loop je mee in burgerleven, nee Bertje nee. Netjes in de maat gebleven,
nee Bert nee.
Laten wij het schip verbranden dat ons naar dit eiland droeg. Laten wij de storm bedanken die ons uit de richting sloeg. Kunnen wij van liefde leven, ja Bertje ja. Blijft de rest ons dan onteven,
ja Bert ja.
Soms vliegt een olifant vrolijk naar binnen en pikt onze laatste graantjes zwart zaad, waar wij met z'n tweeën al weken op zitten, maar we wuiven hem na als hij weer vliegen gaat. Kunnen wij van liefde leven, ja Bertje ja. Blijft de rest ons dan onteven,
ja Bert ja.
Kunnen wij van liefde leven, ja Bertje ja. Blijft de rest ons dan onteven.
Mieke Neuroul, vous interprétez Berten Bertje. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et nous évoquons aujourd'hui donc Flandre et ses géants. Alors donc dans les années 60, eh bien on était dans les Trente Glorieuses et puis eh bien les traditions, les fêtes locales petit à petit s'estompent, on ne croit plus qu'au progrès, au modernisme. Et soudain, eh bien c'est le choc en 1973, ce fameux choc pétrolier qui va secouer donc ce monde de certitude, de modernisme et remettre bien sûr en cause bien des choses. C'est le début d'une crise de chômage, c'est aussi eh bien la remise en cause de bien des certitudes, donc, et les populations, eh bien, ils ont besoin de se raccrocher. Et les géants vont servir un petit peu de référence, et on va redécouvrir donc nos géants. Et c'est ainsi que dans les années 70, où on comptait à peu près 200 géants, eh bien, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 450. Chaque année, on voit naître une dizaine de nouveaux géants. Et il faut ici reconnaître que la création de ces nouveaux géants n'est plus d'inspiration mythique ou quasi-religieuse, mais plutôt inspirée par des légendes locales, plutôt aussi le souhait de mettre en avant, mettre en l'honneur un métier, un personnage typique qui a marqué la vie de la commune. Alors évidemment, après avoir eu l'idée de construire un géant, eh bien, une chose est sûre, c'est qu'il faut bien sûr le réaliser. Et naturellement, on a besoin de bien des matériaux pour construire ce géant. Il faut d'abord bien sûr du bois, du carton, mais surtout de l'osier, et la région en est riche. Il faut aussi de l'argile, du cuir, du tissu et de la peinture. Et tout ça, bien sûr, avec beaucoup d'imagination et du courage, eh bien, on voit apparaître donc de nouveaux géants. Parmi les créateurs, on peut citer par exemple Stéphane de Lerance, qui est à l'origine de moins d'une cinquantaine de géants, comme celui de Raoul de Godversveld ou de Reuze Quinquin, qui représente l'ancien maire de Lille, Pierre Mauroy. Il y a aussi ce couple d'artistes d'Hasbrouck, qui ont conçu aussi de très nombreux géants, comme le géant Tichetache, né en 1947, Ali Boron d'Éther, Gédéon et Arthurine de Bourbourg. Il s'agit de un couple, Georgette et Maurice de Schroth-Patein, qui étaient des artistes peintres. Ils étaient plutôt spécialisés dans les peintures de nature morte et les paysages en particulier. Mais ils ont mis leur talent au service de leur communauté pour créer ces fameux géants qui existent toujours. Alors, bien sûr, pour créer ces géants, il y a bien sûr tout un travail. Il faut d'abord, bien sûr, dessiner le géant, s'inspirer, par exemple, d'une photographie du personnage que l'on veut représenter, faire un moulage, en plus, après, en plâtre, en particulier le visage, ce qui est la partie la plus délicate. Et surtout choisir des matériaux les plus légers possibles, car la tradition veut que les géants soient portés. D'ailleurs, les puristes disent qu'un géant qui ne danse pas n'est pas un géant vivant, c'est un géant sans vie. Alors on choisit donc surtout pour le corps des géants de l'osier. C'est l'opération bien sûr assez délicate, car il faut que ça soit léger mais solide aussi. Et après, il y a bien sûr la conception du visage qui soit la plus proche possible de, par exemple, du personnage que l'on veut représenter. Choisir des bonnes peintures, le maquillage qui doit résister bien sûr aux intempéries, car sous nos yeux flamands, eh bien, il n'est pas rare qu'il pleuve un peu de temps en temps. Enfin, il faut réaliser bien sûr le costume. Alors le costume, c'est un vrai travail de couturière. Ah, vous imaginez, vu la taille des géants qui mesurent 3,50 m, 4 m, voire 5,20 m. Et donc naturellement, il faut dessiner un patron et puis après aller au travail pour concevoir et bien sûr mettre en place ses habits. Naturellement, tout ce travail ne peut se réaliser que grâce à des bénévoles. Des bénévoles qui se consacrent donc à faire vivre, à faire danser ces géants, à l'entretenir bien sûr aussi. Il faut trouver des budgets, il faut trouver un local pour le protéger. Et puis, il y a les porteurs. Alors les porteurs, c'est une véritable confrérie. On est porteur de père en fils et il n'est pas question, bien sûr, de céder sa place à quiconque. C'est un honneur immense que celui d'être porteur, et il n'est pas évident, bien sûr, d'avoir la chance d'être un jour porteur, parce que pour être porteur, il faut bien sûr bien des qualités, parce que les géants, eh bien, ils ont un certain poids malgré tout. Ils peuvent peser entre 40 et 120 kilos, et même certains géants, comme celui de Hatt, le fameux cheval Bayard, eh bien, c'est 650 kilos. Il nécessite 16 porteurs. Donc vous imaginez bien que pour faire bouger 16 porteurs, eh bien il faut aussi de la cohérence, de la discipline, de l'enthousiasme, parce que évidemment, eh bien 650 kilos à porter, même par 16 porteurs, ce n'est pas rien. Surtout que le cheval Bayard avec ses 4 fils et une démon, eh bien il se déplace, c'est un géant aussi porteur. Il faut donc prévoir aussi, bien sûr, une équipe de relais, car évidemment, quand on est sous les jupes des géants, eh bien, il n'y a pas la climatisation, sachez bien. Et donc, c'est quand même un travail rude et fatigant. Alors, bien sûr, nous n'allons pas présenter tous les géants de Flandre, ils sont nombreux, comme on disait, mais on ne résiste pas à l'envie de vous faire au moins écouter l'histoire d'un des géants emblématiques de notre région, l'histoire de Lidéric et de Finard, ces géants lillois. Écoutons.
Lidéric et Finard, gérants lillois. Le prince Salvar et son épouse Emmegarthe, qui attend un heureux événement, fuit la Bourgogne gagnée par une sédition. Ils tentent de gagner l'Angleterre et doivent traverser pour cela le sinistre bois sans merci qui borde la Deule. L'endroit est réputé être le repère du brigand Finard et brusquement, au détour d'un bosquet, c'est l'embuscade. Le combat ne dure qu'un instant. Salvar est égorgé avec toute son escorte et Emmegarthe ne doit la vie qu'à une cohue qui lui permet de se réfugier dans un fourré avant de s'enfuir pour trouver asile chez un ermite. Celui-ci a élu domicile près de la Fontaine des Saules, appelée en Picard Fontaine de Lceau. C'est là que la princesse met au monde un garçon dont la Vierge, à la faveur d'une apparition miraculeuse, lui assure qu'il vengera un jour le meurtre de son père. Mais Finard a fait le compte de ses victimes et voit bien que la princesse n'est pas là. Il lance donc ses gardes à ses trousses et ceux-ci ont au fait de la retrouver dans le refuge de fortune mis à disposition par l'ermite. Se voyant découverte, Emmegarthe a juste le temps de dissimuler le nouveau-né, en le confiant à l'ermite. Puis les gardes se saisissent de la princesse et l'emmènent dans le repaire du brigand. Bien embêté par cette charge aussi délicate qu'inattendue, l'ermite décide de faire allaiter le bambin par une biche et lui donne son nom, Lidéric. C'est là, en compagnie des animaux de la forêt et sous la surveillance de son père adoptif, que le jeune prince grandit en force et en sagesse. Mais, un beau jour, ses origines l'inquiètent. « Dis-moi, père, de qui suis-je vraiment le fils ?»« Mais pourquoi me le demandes-tu puisque tu m'appelles père ?» répond l'ermite. « Oh, je sais bien que tu es un homme de Dieu. » et que par conséquent, tu ne peux pas être mon vrai père. Bien répondu, dit l'ermite. Eh bien alors écoute, je vais tout te dire. Et le vieux Lidéric, de raconter ce qui s'est un jour passé dans le bois sans merci, et d'apprendre ainsi au jeune homme la vérité sur sa naissance. De ce jour, le vaillant Lidéric n'a plus qu'une idée en tête. Réclamer justice. Il décide donc d'aller à Soissons pour plaider sa cause auprès du roi Dagobert. Le roi écoute attentivement le jeune homme qui sait convaincre le vieux monarque, qui, à la fois outré par le forfait de Finard et séduit par la fougue de Lidéric, autorise un duel judiciaire. Il laisse ainsi à Dieu le soin de juger de la chose, tout en conservant au fond de lui-même la certitude de voir le jeune prince en phare et habilité. L'affrontement a lieu le 19 juin 640 sur le pont de Fin. À l'heure dite, Lidéric paraît sur un cheval blanc. Il porte sur le bras un faucon, marque de son appartenance au corps des Jouvenceaux, ceux qui n'ont pas encore pris d'épouse et ne possèdent donc pas de descendance. Ses cheveux blonds flottent au vent. Son casque n'est pas encore posé sur sa tête, car il veut que son adversaire puisse croiser son regard rempli de haine. Finard, de son côté, montre un noir destrier. Ses cheveux roux sont retenus par un homme en fer lourd et impressionnant. Il porte sur l'épaule la hache des forestiers de Flandre, avec laquelle il a tué plus d'un de ses ennemis. barbu, massif, il semble remplir tout l'horizon. Chaque cavalier est campé à l'une des extrémités du pont. Le roi lève son épée, les trompettes sonnent, les combattants se ruent aussitôt l'un vers l'autre. Au premier choc, les lances se rompent sous la puissance de l'assaut qui manque de désarçonner le cavalier. Et cela se produit 3 fois de suite. 3 fois les lances se rompent sous le choc, mais 3 fois les adversaires n'en retirent que plus de hargne à se combattre. Au bout d'une heure de farouches affrontements, nos deux protagonistes sont à pied, l'épée à la main. Lidéric est exalté. Il sait bien qu'il a en face de lui le meurtrier de son père et le geôlier de sa mère. Mais le combat est toujours incertain. Finard, plus âgé, n'est semble-t-il pas prêt à montrer quelque lassitude. Tandis que Lidéric pallie son manque d'expérience par une fougue sans pareille. Mais le ciel a entendu la prière du juste. La cause défendue par le brigand n'est pas noble, chacun le sait, et l'issue du combat ne saurait donc faire de doute pour personne. C'est ainsi qu'à la faveur d'un instant où le géant part mal une de ses attaques, Lidéric en profite pour pousser son épée et atteindre son ennemi au défaut de la cuirasse. Le géant titube, met un genou à terre, se penche et tombe lourdement sur le côté. Sa chute déplace même un nuage de poussière, qui, dans les rayons du soleil déclinant, ne fait qu'ajouter de l'atmosphère au drame. Lidéric, qui est maintenant sûr de sa victoire, lève les yeux au ciel, comme pour prendre quelqu'un à témoin, soulève son glaive, relève la visière de son adversaire et lui tranche la gorge. Le géant roux baigne maintenant dans une mare de sang. Justice est rendue. Lidéric retrouve sa mère. Tous les biens de Finard sont confisqués par le roi à son profit. Il hérite ainsi du fameux château du Buc situé en Lille, avec toutes les terres y attenant, c'est-à-dire la Flandre tout entière, et c'est pourquoi la tradition fait de Lidéric le premier comte de Flandre. Donc, c'est un texte écrit par Bernard Cousset.
Voilà, et donc les premiers géants, et en effet, on les représentait souvent en guerriers, mais par la suite, eh bien, évidemment, on a un peu abandonné cette représentation pour choisir d'autres types de références, comme justement des animaux, en particulier, par exemple, le caou de Merville, mais aussi le baudet des terres. Le choix, d'ailleurs, n'est jamais non plus tout à fait par hasard, c'est pas pour faire plaisir ou pour une quelconque comme ça vue d'esprit. Et non, on n'a pas choisi le baudet des terres par hasard. Et bien cette histoire est assez particulière. En effet, lors de la révolte des Gueux en 1566, et bien une bande de petits voyous et méchés voulaient tourner en dérision la religion. Il s'empare du dé, cette fameuse tonnelle que l'on promène dans les processions et pour protéger le Saint-Sacrement, eh bien, ils mettent sous ce dé, eh bien, un baudet. Ils le promènent à travers toute la ville et arrivés devant l'église, évidemment, ils veulent faire rentrer le baudet pour tourner en dérision, bien sûr, les prêtres qui promènent donc lors des processions le Saint-Sacrement, mais seulement voilà, le baudet refuse de rentrer dans l'église. Et c'est ainsi que les Estérois vont honorer donc la mémoire de ce baudet respectueux de l'église et qui a ainsi donné une leçon de morale aux voyous. Et Ali Boron est le nom de ce baudet particulier qui est toujours célébré donc à Éther. Si l'église, bien sûr, a essayé d'inspirer de temps en temps des personnages, et bien malheureusement il n'y avait pas beaucoup d'écho auprès des populations qui préféraient mettre en avant des personnages pittoresques de la commune comme Clac de Zegerskapel. Clac en flamand ça veut dire casquette et c'est un personnage très sympathique qui était caractéristique, que les habitants du village le repéraient parce qu'il avait une casquette qui portait tout le temps sur lui, qui ne se séparait jamais. On célèbre aussi un des autres personnages très sympathiques, Maurice Cornille Hennegrave, donc surnommé Mousse à Wormhout, et qui va avoir droit à cet honneur d'être le roi des mitrons, puisqu'il était cuisinier de métier. Et ce roi des mitrons, bien sûr, caractérise un peu l'esprit espiègle de tout bon flamand. Ou encore un autre géant pour célébrer un homme sympathique dans le village. C'est à Coudekerque village où on célèbre la mémoire d'un garde champêtre qui avait un caractère particulier, qui était aussi le plus vieux garde champêtre de France à exercer son métier. Et donc c'est Charles le garde champêtre, là aussi qu'on honore par la construction d'un géant. Et puis il y a des géants qui célèbrent des métiers, comme Baptiste Altoil à Annelin, en mémoire des colporteurs de la commune, qui étaient réputés en particulier pour leur sens du commerce. Ils parcouraient toute la région pour vendre certes du tissu, mais bien d'autres marchandises, et parfois même ils n'avaient pas toujours le temps de rentrer chez eux et ils couchaient le long d'un fossé ou dans une grange. Il y a aussi un autre métier qui est honoré, par exemple, comme à Lezen, avec Isidore de Lezen, dit Courtorel, qui rappelle le métier de carrier, à Lezen en particulier, un métier difficile. Les femmes ne sont pas absentes non plus parmi les géants. On connaît, par exemple, bien sûr, au départ, il y a eu les géants comme Reuse Papa ou Gaillon à Douai qui ont eu une épouse, mais il n'y a pas eu que le rôle d'épouse pour les géantes. On a célébré de véritables héroïnes, comme la belle Rose à Ardres, qui est une cabaretière qui a sauvé la ville de l'ennemi. Grâce à son courage en alertant la garde de la ville pour éviter bien sûr que la ville soit capturée. Il y a Jeanne Mayotte à Lille qui aussi elle a sauvé la capitale des Flandres de l'invasion des Hurlus venus de Moucron. Et puis il y a aussi Notre-Dame, ces femmes de l'ombre qu'on peut dire, la matelote à Grandfort-Philippe qui représente le sacrifice de ces femmes pêcheurs qui élevaient leurs enfants seuls pendant que leur mari était en mer pour pêcher le hareng, pêche à Islande comme on dit à Dunkerque. Et puis il y a aussi des géants tout nouveaux comme pour célébrer ils ont une culture typique de la région, comme les pommes de terre, Madame Binch. Et d'ailleurs, chaque géant aussi avait son hymne, comme justement cette Madame Binch de Hans Scott.
Oui, voici l'hymne à Madame Binch. L'hymne à Madame Binch, Binch, Madame Binch, la géante pomme de terre, Binch, Madame Binch, est aussi grande que Gulliver. Binch, Madame Binch, la géante pomme de terre, Binch, Madame Binch, est connue aux quatre coins de la terre. Au resto du cœur, au four, en frites, en purée, avec un peu de beurre, à la cantine de l'Élysée.
Voilà, c'est une chanson qui accompagne donc Madame Binch, donc qui représentait donc là aussi une dame qui fait honneur à nos agricultrices. Et puis il y a aussi des géants qui sont qui représentent des religieux, qui ont un point commun d'ailleurs, ces deux géants, c'est qu'ils sont issus de l'ordre des franciscains. Il s'agit de Guillaume de Rubruck, qui est un moine franciscain qui a été envoyé par Saint-Louis pour aller jusqu'en Mongolie. Et puis un autre plus récent, c'est le frère Frédéric Jansson, qui est né à Givet, qui lui aussi a parcouru le monde et qui a été béatifié il y a quelques années parce qu'il a fait un énorme travail auprès des populations à travers le monde et en particulier au Canada. Et puis aussi des personnages plus truculents comme Gargantua Bayeul, qui évidemment sont le symbole du bien boire et du bien manger, de la bonne chair, et qui fait le bon vivre, le Vlaamscheleut en Flandre, avec son cousin de Béthune, Gambrinus bien sûr. La musique, bien sûr, n'est pas oubliée parmi ces géants, puisque à Saint-Sylvestre-Capelle, il y a Sylvestre le ménestrel qui, bien sûr, est habillé en troubadour. Et donc, tous ces géants, eh bien, évidemment, sont des géants portés, c'est la tradition, c'est un peu l'exigence des puristes, et c'est normal, ils font partie de la fête, des processions. Mais il y a aussi des géants qui, eux, eh ben, ils ne bougent pas beaucoup. Je ne peux pas oublier, bien sûr, ce géant qui est un peu cher à mon cœur, étant d'origine bergoise. Eh bien, c'est le géant de Berg, qui est le dit l'électeur, qui est habillé d'un chapeau de forme et d'une redingote noire. Il est assis sur un grand fauteuil et il tient une célèbre parapluie surnommée le Bergenard. Et lui, il ne bouge pas, il est toujours assis près de la façade de l'hôtel de ville. À un moment, il a été assis au pied du beffroi de Berg, mais quand il y a eu les travaux de rénovation, eh bien, on l'a remis à sa place initiale, donc face à la mairie de Berg. Et puis, il y a un autre géant aussi, c'est bien sûr Arthur et Arthurine de Bourbourg, qui sont des cousins de Reuse, du Reuse de Cassel, qui eux sont des géants portés. Et là, c'était un Cassellois qui a été parti à Bourbourg et qui, la ville n'ayant pas de géants, eh bien, il a dit mince, à Cassel, ils ont un superbe géant, il n'y a pas de raison que Bourbourg n'ait pas le sien, et donc c'est ainsi qu'est né Arthur et Arthurine. Et il y a plein d'autres, bien sûr, géants, on va pas tous les citer ici. D'ailleurs, l'émission déjà touche quasiment à sa fin. Il y a un géant qui aussi est assez particulier, c'est Arangus de Seclin. Un géant donc qui représente le hareng et qui commémore une décision de Jeanne de Flandre pour alimenter la ville de Seclin en hareng. C'est une décision qui avait été prise et donc c'est un écho de tradition. Voilà, eh bien, nous espérons que cette émission vous a plu. Nous vous souhaitons une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus 104.3 et vous pouvez aussi, bien sûr, l'écouter sur le site internet www.radioplus.fr. Bonne semaine à vous.
Dag prinsje carnaval, de zotte van dit tranendal. Wat ook maar gaan en lopen kan, in Bench, in Keuler en in Kan. De zotten van dit tranendal, die houden bal, die houden bal. We kijken toe, we spelen mee, we zijn zo moe, de kleine vree. Het werk, de koffie en de thee, de zondagskerk en dag aan zee. We zijn zo moe, het spel met wee, om beurt het woord, om beurt gedwee. We zijn het moe, we spelen mee, waarom en hoe telt hier niet mee? Dag prins, dag prinsje carnaval, de zotte van dit tranendal. Wat ook maar gaan en lopen kan, in Bench, in Keuler en in Kan. De zotte van dit tranendal, die houden bal, die houden bal. We spelen mee en keer op keer, aan u, aan ons, aan elk de eer. We leven kort slechts één keer, wee niet mevrouw, wee niet meneer. Speel met ons mee en zeg niet nee, ik weet het wel, het doet zo wee. Maar drink met ons en drink steeds meer, vergeet u weer een laatste keer. Dag prins, dag prinsje carnaval, de zotte van die tranendal. Wat ook maar gaan en lopen kan, in Bench, in Keuler en in Kan. De zotten van dit tranendal, die houden bal, die houden bal. We speelden mee de laatste keer, we dronken mee de laatste keer. Dan keerden wij ook huiswaarts weer, het deed zo wee, het deed zo zeer. Die morgen met dat koude weer, die vogels met dat liedje teer, dan legden wij de maskers neer van Don Juan en Teddy Beer. Dat prins, dat prinsje carnaval. De zotten van dit tranendal, wat ook maar gaan en lopen kan, in Bench, in Keuler en in Kan. De zotten van dit tranendal, in Bench, in Keuler en in Kan. Die houden bal, die houden bal.